Chapitre 24. Georgie devient un grand personnage. Georgie Osborne menait une vie de prince dans la maison de son grand-père à Russell Square. En qualité d'héritier présomptif de tout ce luxe dont il était environné, il occupait la chambre que son père avait eue autrefois. Sa bonne tournure, ses airs de grand seigneur, ses prétentions à l'élégance lui avaient concilié les affections de son grand-père. M. Osborne était aussi fier du fils qu'il l'avait été du père. L'enfant vivait au milieu d'un luxe et d'une opulence ignorée de ses pères et mères. Pendant ces dernières années, le commerce de M. Osborne s'était soutenu dans une voie de très grande prospérité. Son crédit et sa considération dans la cité n'avaient fait que s'accroître. Jadis, il s'était estimé heureux de pouvoir mettre Georges dans un bon pensionnat, et il avait ensuite fait grand bruit du grade qu'il avait obtenu pour lui dans l'armée. Dans ses projets d'avenir pour le petit Georges, il visait encore plus haut. Il voulait en faire un gentleman. C'était là son idée fixe. Il le voyait déjà en imagination, membre du Parlement, et qui sait, baron peut-être. Tout ce que désirait le vieillard avant de mourir, c'était de voir son petit-fils marcher déjà sur la route des honneurs. Quelques années auparavant, on aurait pu l'entendre traiter avec des paroles de mépris et de dédain tous ces rongeurs de livres et ces gratte-papiers, troupeaux de cuistres et de pédants, qui n'étaient bons qu'à abrutir la jeunesse à l'aide du grec et du latin, et qu'avec toute leur tournure doctorale, un marchand anglais pouvait acheter à la douzaine. Désormais, il déplorait du ton le plus pathétique le peu de soin avec lequel on lui avait fait faire son éducation, et dans de magnifiques tirades, il faisait à Georges l'éloge le plus pompeux des études classiques. Au dîner, le grand-père était dans l'habitude de demander au petit-fils quel avait été pendant le jour le sujet de ses lectures. Il prenait le plus vif intérêt aux détails qu'il recevait du petit bonhomme sur ses études. Il voulait à toute force paraître au courant de toutes les questions d'enseignement et commettait des énormités qui attestaient assez son ignorance en ces matières et n'ajoutaient pas beaucoup au respect que l'enfant avait pour son aïeul. Avec sa petite pénétration et grâce à l'éducation qu'il recevait, le bambin ne tarda pas à s'apercevoir que son grand-père n'était qu'un âne et un sot, et en conséquence il le soumit à toutes ses volontés et ne le tint pas en grande estime. Car, tout humble et toute modeste qu'avait été l'éducation première de Georgie, elle avait plus fait pour lui donner la suffisance de soi-même et le mépris des autres que n'y contribuaient les rêves et les projets de son grand-père. N'avait-il pas été élevé par une douce et tendre femme, dont tout l'orgueil se résumait en lui, et dont la vie était un sacrifice à l'humeur égoïste, aux petites volontés de son fils? Georgie avait déjà conquis tout pouvoir sur cette nature douce et soumise, et il lui fut encore plus facile de gouverner l'épaisse suffisance d'un parvenu dont la vanité n'avait d'égal que la bêtise. L'enfant comprit bien vite que là aussi, il pouvait régner en petit despote. Car, fût-il né sur le trône, la flatterie n'aurait pas mis plus d'empressement à combler ses instincts présomptueux. Tandis que sa mère passait de longues heures du jour en proie à un amer chagrin et soupirait dans la triste solitude des nuits sur l'absence de son fils, le bambin, au milieu des plaisirs et des distractions qu'on lui prodiguait, ne se sentait pas autrement privé de la présence de sa mère. Si vous avez vu des enfants pleurer pour se rendre à l'école, n'attribuez point cette sensibilité a un motif de tendresse et d'affection. S'ils pleurent, c'est qu'ils voient devant eux l'ennui de la classe et du travail. Ainsi donc, maître Georges s'enivrait du luxe et de l'opulence dont l'entouraient à plaisir l'orgueil et les écus du vieil Osborne. Ce dernier avait donné l'ordre à son cocher d'acheter pour le bambin le plus joli poney qu'il trouverait, sans regarder à l'argent. Georges apprit d'abord à monter à cheval, puis, lorsqu'il se fut bien affermi sur ses étriers et qu'il sauta la barre sans broncher, il alla caracoler dans Regent's Park, dans Hyde Park, suivi à distance du cocher Martin. Le vieil Osborne, qui descendait moins souvent dans la cité et laissait à ses plus jeunes associés la direction des affaires, se faisait souvent conduire avec sa fille dans les promenades à la mode. Tandis que le petit Georges, bien campé sur ses étriers et avec un air de gentleman, faisait caracoler son cheval autour de la voiture, le grand-père, le montrant à Miss Osborne, lui disait « Voyez un peu, je vous prie ». Puis il se mettait à rire et sa face devenait toute rouge de contentement, et il ne pouvait s'empêcher de passer la main par la portière pour applaudir aux évolutions du petit bonhomme. Là aussi, chaque jour, venait se promener son autre tante, Mrs. Frederick Bullock, dans une voiture aux panneaux et aux harnais armoriés. Aux portières, on pouvait apercevoir trois petits Bullock à la figure de papier mâché et presque ensevelis sous les plumes et les rubans, tandis qu'au fond de la voiture, leur mère lançait des regards de haine à leur jeune cousin, qui passait à cheval auprès d'eux, le chapeau sur l'oreille, et aussi fier qu'un membre du Parlement. Bien qu'il eût à peine ses 11 ans, Maître Georges portait des bottes à revers, ni plus ni moins qu'un homme véritable. Il avait des éperons dorés, un fouet à pommes d'or, une épingle de diamant sur sa cravate longue et des gants de chevreau de la meilleure fabrique. Sa mère lui avait fait cadeau de 2 cravates et lui avait ourlé et marqué de charmantes petites chemises. Mais quand M. le Fashionable vint revoir la pauvre veuve, elles étaient remplacées par du linge beaucoup plus fin et beaucoup plus beau. Georges portait des boutons en brillant à ses devants de chemise. Et quant aux modestes présents de sa mère, on s'en était débarrassé. Miss Osborne les avait donnés, je crois, au petit garçon du cocher. Amelia s'efforça de se persuader qu'elle était bien aise de cette substitution, et en fait, elle était heureuse et ravie de voir à son fils si bonne mine et si bonne tournure. Elle possédait une petite silhouette de lui qu'elle avait payé 1 shilling. Elle l'avait suspendu à son chevet à côté d'un autre portrait que nous connaissons déjà. Un jour, le petit bonhomme vint lui faire sa visite accoutumée, faisant retentir du galop de son cheval toute la rue de Brompton, et attirant tout le monde aux fenêtres pour faire admirer sa bonne grâce et son brillant costume. Arrivé auprès de sa mère, il tira de sa poche un écrin de maroquin et le lui présenta avec une joie mêlée de fierté. « C'est moi qui l'ai acheté de mon argent, chère maman, lui dit-il, parce que j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. » Amelia ouvrit l'écrin et poussa un petit cri de surprise et de bonheur. Puis elle prit l'enfant entre ses bras et le couvrit de 1000 baisers. C'était le portrait de son fils en miniature, charmant petit chef-d'œuvre qui, dans la pensée de la veuve, toutefois, ne valait pas l'original. Le grand-père avait tenu à avoir le portrait de l'enfant de la main d'un artiste dont les tableaux exposés chez un marchand de peinture avaient attiré son attention. Georges, qui avait toujours les poches remplies d'argent, demanda au peintre combien il lui prendrait pour lui faire un second portrait, disant que c'était un cadeau qu'il voulait faire à sa mère et qu'il le paierait de son propre argent. Le peintre, touché de cette bonne pensée, lui fit la copie pour un prix très modique. Le vieil Osborne, en apprenant cette petite histoire, fut transporté d'admiration pour son petit-fils et lui donna 2 fois autant d'argent que lui avait coûté la miniature. Mais l'admiration du grand-père pouvait-elle se comparer au ravissement qu'éprouvait Amelia? Cette preuve d'affection de la part de l'enfant la charmait au point qu'elle ne croyait pas que son fils eût son pareil pour la bonté et pour le cœur. Elle fut heureuse de cette marque d'affection pendant bien des semaines de suite. Elle s'endormit plus contente avec ce portrait sous son oreiller. De combien de baisers et de larmes ne le couvrait-elle pas chaque jour? Combien de prières n'adressait-elle pas au ciel en le tenant dans ses mains? Il fallait de la part de ceux qu'elle aimait si peu de choses pour pénétrer son cœur de la plus vive reconnaissance. Jamais pareille joie ne lui était arrivée depuis sa séparation d'avec Georges. Dans sa nouvelle condition, Maître Georges se conduisait en vrai gentleman. À dîner, il offrait du vin à ses voisines avec un sérieux magnifique et buvait son champagne avec un aplomb qui enthousiasmait son grand-père. « Regardez-le, disait le vieillard en poussant du coude son voisin. Avez-vous jamais vu un gaillard de cette espèce? Dieu me pardonne, il ne lui manque plus qu'un lavabo et des rasoirs pour se raser les favoris. Je suis sûr que monsieur ne demanderait pas mieux. » Les amis de M. Osborne n'admiraient peut-être pas autant que lui les espiègleries du petit bonhomme. M. Coffin n'était pas bien aise de se voir toujours interrompu à l'endroit le plus pathétique de ses narrations par les saillies de Maître Georges. Le colonel Fogé n'éprouvait aucun plaisir à le voir trébucher à moitié étourdi par les fumées du vin. Mrs. Toffy ne lui savait aucun gré des coups de coude qu'il lui donnait pour lui faire répandre son verre de Porto sur sa robe de satin jaune et les éclats de rire que poussait ensuite le garnement à la vue des tâches qu'il venait de faire. Elle en voulut surtout à Georges d'avoir rossé un jour son troisième petit garçon qui avait un an de plus que lui et qu'elle avait amené un jour de congé à Russell Square. Monsieur Osborne fut au contraire très fier de cette victoire et il donna 2 sovereigns à son petit-fils en lui promettant autant pour l'encourager chaque fois qu'il rosserait plus grand et plus âgé que lui. Nous aurions peine à déterminer ce que le vieillard trouvait de si louable dans ses luttes à coups de poing, mais il lui semblait, sans toutefois qu'il se rendît compte de cette opinion, que les enfants acquièrent par là une certaine hardiesse et que l'un des premiers principes de l'éducation est d'apprendre à imposer sa volonté aux autres. Tel est l'esprit dans lequel on a de tout temps, il est fâcheux de le dire, élevé la jeunesse anglaise. Tout bouffi des éloges que lui avait valu sa victoire sur Maître Toffy, Georges désira tout naturellement récolter de nouveaux lauriers. Un jour que dans une promenade des plus fréquentées, il étalait des habits à la dernière mode, un garçon boulanger se mit à le poursuivre de ses railleries et de ses sarcasmes. Notre jeune élégant se débarrasse aussitôt de son bel habit, le remet aux mains de son compagnon, Maître Todd, fils du plus jeune associé de la maison Osborne, et rempli d'un noble courage, se dispose à rosser le jeune mitron. Mais cette fois, les chances lui furent contraires. Georges fut rossé, et il rentra l'œil noir, la chemise déchirée, et le nez tout en sang. Il raconta à son grand-père qu'il avait livré combat à un colosse, et fit trembler sa pauvre mère au récit détaillé et apocryphe de ce terrible engagement. Le jeune Todd était l'ami intime, le grand admirateur de Maître Georges. Tous deux avaient le même goût pour le théâtre et les tartelettes, pour les glissades des jardins de Regent's Park lorsque le temps le permettait, ou pour aller au sortir du spectacle, où les accompagnait Rawson, le valet de pied de Maître Georges, prendre des sorbets au café voisin. Ils allaient à tous les théâtres de la capitale, savaient les noms de chacune des actrices, et en présence de leurs jeunes amis, donnaient sur leur théâtre de carton la représentation des pièces qu'ils avaient vues. Quelquefois, Rawson, qui avait l'âme généreuse, régalait ses jeunes maîtres de quelques 12 d'huîtres après le théâtre avec un petit verre de liqueur pour mieux faire dormir les enfants. Rawson, du reste, trouvait son compte à toutes ces complaisances et en était largement récompensé par la générosité de son jeune maître. Un des plus fameux tailleurs de la haute aristocratie avait la haute mission d'habiller Maître Georges. M. Osborne pouvait bien se contenter des ravaudeurs de la cité, comme il disait, mais ils étaient indignes de faire les vêtements de Maître Georges. Peu importait la dépense, tel était l'ordre donné au grand tailleur. Et au bout de quelques jours, il envoyait à Maître Georges une garde-robe des mieux montés en habits, vestes et culottes. Il s'y trouvait des vestes en casimir blanc pour les soirées, des vestes en velours pour les dîners, une robe de chambre en cachemire pour l'appartement. Georges paraissait tous les jours au dîner, tiré à 4 épingles, comme un vrai gentilhomme, suivant l'expression de son grand-père. Un domestique, attaché à sa personne, lui aidait à faire sa toilette, accourait à son coup de sonnette et lui apportait ses lettres sur un plateau d'argent. Après le déjeuner, Georges se prélassait dans le grand fauteuil de la salle à manger et il lisait le Morning Post comme un homme de taille ordinaire. « Comme il jure et sacre bien !» se disaient entre eux les domestiques, émerveillés de sa précocité. Ceux qui se souvenaient du capitaine son père disaient qu'il lui ressemblait trait pour trait. Son humeur vive, impérieuse et enjouée mettait en branle toute la maison. Le soin de l'éducation de Georges fut confié à un pédant du voisinage qui tenait une maison où la jeunesse était préparée aux universités, au parlement et aux professions libérales, dont le système excluait ces châtiments corporels qui dégradent la nature humaine et qui sont encore en usage dans les établissements de l'Ancien Régime, et dans laquelle, enfin, les jeunes gens étaient assurés de trouver les traditions de la société et toute la sollicitude que l'on peut rencontrer dans la famille. Telle était la méthode que le révérend Lawrence Veal de Bloomsbury, chapelain particulier du comte de Bareacres, appliquait, de concert avec sa femme, aux élèves qu'on lui confiait. À force de réclames et de démarches, le chapelain particulier et sa femme parvenaient à réunir chez eux un ou deux écoliers. Le prix de la pension était fort élevé et l'on supposait qu'il était en rapport avec la manière dont on traitait les élèves. Il s'y trouvait un jeune indien au teint cuivré, à la tête laineuse, à la mise recherchée que personne ne venait jamais voir. Nous pourrions citer encore un garçon de 23 ans, vrai lourdeau, dont l'éducation avait été fort négligée et auquel M. et Mrs. Ville cherchaient à faire son entrée dans la haute société. Item les deux fils du colonel Wrangles au service de la Compagnie des Indes. Ces quatre pensionnaires formaient les convives habituels de la table de M. Ville lorsque Georgie entra dans la maison. Georgie venait seulement passer la journée dans cette pension. Le matin, il arrivait sous l'escorte de son ami Rawson, et lorsqu'il faisait beau dans l'après-midi, on lui amenait son cheval et il allait se promener, accompagné de son groom. Dans cette pension, on attribuait au grand-père de George une fortune fabuleuse, et le révérend M. Ville saisissait toutes les occasions d'y faire allusion, disant à Georgie qu'il était destiné à occuper dans le monde une haute position, que par son application et sa docilité, il devait se préparer au grave devoir qui allait peser sur lui dans un âge plus avancé. Que l'obéissance dans un jeune homme était la meilleure préparation à l'exercice du commandement dans la virilité, et qu'en conséquence, il suppliait Georgie de ne plus apporter de pain d'épices à la pension, ce qui ne pouvait que ruiner l'estomac de Messieurs Wrangles, qui trouvait une nourriture abondante à la table de Mrs. Ville. Au point de vue scolaire, l'égide de Palace, c'était le nom que M. Ville donnait à son institution, présentait un heureux mélange de variété et de profondeur. On y traitait dans leur vaste ensemble toutes les sciences connues. M. Ville avait un planétaire, une machine électrique, un tour, un théâtre dans la buanderie, un cabinet de chimie, une bibliothèque composée des meilleurs auteurs anciens et modernes dans les diverses langues. Il conduisait ces jeunes gens au British Museum et dissertait devant eux sur les antiquités et les pièces d'histoire naturelle qui s'y trouvaient rassemblées, si bien que les auditeurs se pressaient autour de lui à ce qu'il disait et que tout Bloomsbury l'admirait et le prenait comme un puits de science. En parlant, ce qui lui arrivait assez souvent, il affectait une très grande recherche dans ses phrases et demandait au dictionnaire les mots les plus pompeux et les plus recherchés. Il avait pour maxime qu'il n'en coûte pas plus d'employer une épithète étoffée, magnifique et ronflante, que d'en prendre une dont se servirait le premier venu. Ainsi, par exemple, il disait à Georges, quand celui-ci arrivait en classe, « J'ai remarqué, en rentrant dans mon domicile, au retour d'une séance où j'ai eu à expliquer les facultés intuitives de mon intelligence à une exégèse scientifique chez mon excellent ami le docteur Rocaille, archéologue par essence, messieurs archéologues par essence, j'ai remarqué, dis-je, que les fenêtres de la demeure de votre respectable aïeul resplendissaient d'une clarté qui révèle la solennité d'un jour de fête. Puis-je, sans m'écarter de la vérité, conclure de ces symptômes que M. Osborne a réunis la nuit dernière, sous ses somptueux lambris, la fine fleur des esprits précédents de notre époque ? Le petit Georgie, plein de malice et d'espièglerie, et qui savait à merveille contrefaire M. Ville, répondait que M. Ville avait une puissance de pénétration avec les lumières de laquelle il était impossible de s'écarter de la voie de la vérité. Eh bien, les commensaux qui ont eu l'honneur de rompre le pain de l'hospitalité à la table de M. Osborne n'ont eu lieu, j'en suis sûr, qu'à s'applaudir de la succulence des mets. J'ai le droit de m'exprimer ainsi, moi qui, pour ma part, ai été comblé d'une semblable faveur. Au fait, M. Osborne, vous arrivez un peu tard ce matin, et vous vous êtes plus d'une fois exposé aux mêmes reproches. Je disais donc, messieurs, que M. Osborne ne m'a pas jugé indigne de m'inviter à m'asseoir à ses somptueux banquets, et bien que j'ai eu pour amphitryon les plus nobles et les plus grands personnages de la terre, et je pourrais dans le nombre vous citer mon ami et mon patron, le très honorable George, comte de Bearacres, je dois vous déclarer en conscience que la table du marchand anglais offrait à l'œil un spectacle aussi resplendissant que celle d'un noble lord, et que son accueil n'était ni moins magnifique, ni moins hospitalier. Monsieur Bloch, voulez-vous reprendre le passage de Trope que nous élucidions lorsque nous avons été interrompus par l'arrivée de Maître Osborne ? Voilà le grand homme auquel on avait confié l'éducation de notre ami Georges. Amélia ne comprenait rien à ces belles phrases, mais elle n'en tenait pas moins Monsieur Ville pour un prodige de science. La pauvre veuve s'était empressée de se faire une amie de Mrs. Ville. C'était un honneur pour elle de se trouver dans la maison à l'arrivée de Georgie, c'était un honneur pour elle d'être invitée aux conversazioni de Mrs. Ville, qui avaient lieu une fois par semaine, comme en avertissaient des billets roses, en tête desquels on lisait A-O-H-N-H, et où le professeur invitait ses élèves et leurs amis à venir prendre leur part d'un thé fort clair et d'une conversation non moins scientifique. La pauvre petite Amélia ne manquait pas une seule de ces réunions et s'y trouvait fort heureuse puisqu'elle lui procurait la satisfaction de voir Georges de plus près. N'importe par quel temps, elle se rendait de Brompton à ses soirées et, en embrassant Mrs. Ville, elle avait presque les larmes aux yeux de reconnaissance pour les délicieux moments qu'elle lui faisait ainsi passer. Puis, lorsque tout le monde se séparait, que Georges s'en allait avec son escorte obligée, M. Rawson, la pauvre Mrs. Osborne mettait ses socques et son châle et regagnait seule sa demeure. Sous la direction d'un homme qui possédait ainsi la clé de toutes les sciences, l'instruction de Georges devait prendre un développement vaste et rapide, et ses progrès étaient remarquables, à en juger du moins par les bulletins de la semaine régulièrement adressés à M. Osborne. On y lisait une vingtaine de dénominations appliquées à chacune des branches les plus essentielles de l'enseignement, et le professeur notait en regard les progrès de Georges dans chacune de ses sciences. En grec, Georges était Aristos, en latin Optimus, en français très bien. Il en était de même pour le reste. À la fin de l'année, il avait des prix dans toutes les facultés, ainsi que M. Schwartz, le jeune créole à la tête laineuse, et beau-frère de l'honorable MacMahon, que M. Black, à l'esprit inculte et stérile, qu'un certain cancre appelait M. Todd, dont nous avons déjà eu à citer le nom. Chacun de ces messieurs recevait de petits livres dorés et cartonnés qui portaient le mot sacramentel, A-O-H-N-H, et en outre une épigraphe latine de la composition du professeur. La famille Todd était en quelque sorte vassale de la maison Osborne. De Todd, d'abord son commis, le vieil Osborne avait fait son jeune associé. M. Osborne était le parrain du jeune Todd qui, plus tard, prit le nom de M. Osborne Todd et devint un des lions à la mode. Miss Osborne avait tenu Miss Maria Todd sur les fonts baptismaux et donnait tous les ans, comme marque d'affection pour son petit protégé, des livres de prières, des brochures, de la poésie d'église, qui pouvait passer pour de la poésie de cuisine, et autres cadeaux non moins précieux. De temps à autre, Miss Osborne menait promener les Todds dans sa voiture. Lorsqu'ils étaient malades, son valet de pied leur portait de Russell Square des gelées et des petites douceurs. Mrs. Todd déployait un très joli talent à faire des découpures en papier pour servir de manches aux gigots, pour tailler dans des navets ou des carottes, des fleurs, rosaces et autres objets d'un effet non moins pittoresque. Tous ces dons naturels, elle les mettait à la disposition de Mrs. Osborne les jours de grand dîner, sans qu'il lui soit jamais venu à l'esprit de demander place au festin. Si un convive manquait au dernier moment, Todd remplissait les fonctions de bouche-trou. Le soir, Mrs. Todd et sa Maria revenaient dans leurs beaux atours et attendaient dans le salon que Miss Osborne y fît sa rentrée à la tête de sa légion féminine. Aussitôt commençait un feu roulant de duo jusqu'au retour des messieurs. Pauvre Maria Todd, pauvre jeune fille, quelle peine! Quel travail lui avait coûté ses duos et ses sonates avant de les soumettre à l'épreuve de la publicité. Il semblait que Georgie dût faire peser tout le poids de sa volonté sur quiconque l'approchait. Camille, parents, domestiques, dussent tous plier le genou devant le petit tyran. L'enfant, du reste, s'accommodait très bien de ce rôle, ni plus ni moins que beaucoup de monde. Georges aimait à commander, Et peut-être, dans cette disposition, y avait-il chez lui quelque chose d'héréditaire. À Russell Square, tout le monde était le très humble serviteur de M. Osborne, et M. Osborne était le très humble serviteur de Georgie. Ses manières dégagées, son ton de suffisance à traiter les livres de science et les matières d'enseignement, sa ressemblance avec son père, mort à Bruxelles avant la réconciliation, tout cela inspirait au vieillard une certaine terreur et assurait la puissance et la domination de son petit-fils. À certains gestes, à certaines inflexions de voix, le vieillard tressaillait malgré lui et s'imaginait avoir devant les yeux le père de Georges. À force d'indulgence pour le fils, il s'efforçait de faire oublier sa dureté pour le père. On était tout surpris de le voir se plier avec tant de facilité au moindre désir de l'enfant. Il bougonnait et jurait suivant son habitude contre Miss Osborne, mais il accueillait toujours par un sourire le petit Georges, alors même qu'il arrivait trop tard pour le déjeuner. La tante de Georges, Miss Osborne, flétrie par cette existence d'ennui et de rebuffade, était passée à l'état malheureux de vieille fille. Pour un garçon un peu mutin, il n'était pas bien difficile d'en avoir raison. Si Georges avait envie d'obtenir d'elle quelque chose, de lui arracher un pot de confiture scellé dans ses armoires, un pain de couleur tout sec et tout gercé de la boîte qu'elle s'efforçait de conserver dans la même fraîcheur que dans le temps où elle était l'élève de M. Smith, Georgie n'était pas long à se procurer l'objet de ses désirs. Et une fois qu'il en était le maître, il ne songeait plus à sa tante. En fait d'habits, il avait son vieux maître de pension, bien empesé et bien solennel, qui le flattait à plaisir, un camarade plus âgé que lui, qu'il pouvait maltraiter à son aise. Mrs. Todd ne manquait jamais de laisser mettre Georgie en tête-à-tête avec sa fille Rosa Jemima, ravissante personne de 8 ans. « Ils sont faits l'un pour l'autre, » disait-elle, partout ailleurs, bien entendu, qu'à Russell Square. « Qui sait ce qui pourrait arriver? Ce serait un couple charmant. » continuait à penser la mère dans l'ivresse de ses rêveries. Le grand-père maternel, le pauvre vieillard brisé par le malheur, courbait aussi la tête sous la tyrannie du petit despote. Comment ne pas se sentir pris de respect pour un jeune gentleman qui portait de si beaux habits et avait un groom à sa suite? Georgie, d'ailleurs, n'entendait-il pas à tout moment les propos les plus durs, les sarcasmes les plus grossiers sortir à l'adresse de M. John Sedley, de la bouche de son implacable ennemi, M. Osborne. M. Osborne avait coutume de le désigner par l'appellation de vieux gueux, de vieux charbonnier, de vieux banqueroutier et autres aménités de même nature. Au milieu de pareilles injures, comment le petit Georgie aurait-il appris à respecter un homme que l'on mettait si bas à ses yeux? Quelques mois après l'entrée de Georges chez son aïeul paternel, Mrs. Sedley vint à mourir. Il n'avait jamais existé entre la grand-mère et le petit-fils une bien vive tendresse, et l'enfant ne manifesta pas grand chagrin de cette mort. Il vint dans les habits de deuil tout neuf voir sa mère, à laquelle il fit part de son regret de ne pouvoir aller au spectacle dont il avait grande envie. La dernière maladie de sa vieille mère devint une œuvre de dévouement pour Amelia. Ah, les hommes ne se doutent jamais des souffrances et des sacrifices qui font la vie des femmes. Avec notre prétendue supériorité d'esprit, nous ne pourrions suffire à endurer la 100e partie des épreuves que traversent chaque jour ces anges de résignation. Soumission continuelle et sans espoir de récompense. Bonté et douceur qui ne se démentent point en présence d'une dureté inflexible. Amour, patience, sollicitude, soins empressés que notre ingratitude et notre indifférence ne savent pas même reconnaître par une bonne parole. Combien s'en trouvent-ils dans le nombre qui ont l'âme brisée par la douleur, tandis que leur figure respire le calme et la joie? Faibles et tendres esclaves, elles sont obligées de cacher leur torture sous les apparences empruntées du bonheur. De son fauteuil de valétudinaire, la mère d'Amelia avait passé dans son lit, d'où elle ne devait plus se relever. Mrs. Osborne ne la quittait que pour aller voir son cher Georges. Et encore la vieille dame lui reprochait ses bien rares absences. Elle avait été une mère si bonne, si indulgente, si tendre, au temps de son bonheur et de sa prospérité, et était maintenant aigri par le malheur et la pauvreté. Ses accès de mauvaise humeur et ce refroidissement d'affection ne diminuaient en rien le dévouement filial d'Amélia. C'était en quelque sorte une diversion à ses autres souffrances. Sa pensée était distraite de ses cruelles préoccupations par les exigences continuelles de la maladie. Amélia supportait les impatiences de sa mère avec une douceur inaltérable, relevait l'oreiller que celle-ci trouvait toujours mal placé, avait une réponse de consolation à toutes ses plaintes et à tous ses reproches, adoucissait ses souffrances par ses bonnes paroles dont les cœurs simples et religieux connaissent seuls le secret. Enfin, elle ferma ses yeux qui, pendant de longues années, avaient eu pour elle de si tendres regards. Alors elle reporta toute sa tendresse sur son malheureux père, abattu par le dernier coup qui venait de le frapper, et lui consacra tout son temps, à lui qui, désormais, se trouvait entièrement seul au monde. Sa femme, son honneur, sa fortune, tout avait disparu autour de lui. Amélia pouvait seule se faire le soutien et l'appui de ce vieillard chancelant et brisé. Cette histoire, une imagination sensible la trouvera tout entière en elle-même. Pour les autres, il est inutile de l'écrire. Un jour que les jeunes élèves de M. Ville s'étaient réunis dans la classe et que l'honorable chapelain du comte de Bareacres se livrait à ses divagations ordinaires, un brillant équipage s'arrêta devant la porte où se dressait la statue d'Athénée, Minerve, et deux messieurs en sortirent. Les deux messieurs Ringalls se précipitèrent vers la fenêtre, pensant que c'était leur père qui arrivait de Bombay. L'écolier de 23 ans, qui suait sang et eau sur un passage de trope, alla aussi appliquer son grand nez au carreau et regarder la voiture dont un garçon de place ouvrait la portière et abaissait le marchepied. « Tiens, observa M. Black, il y en a un gros et un maigre. » Pendant ce temps, le marteau retombait sur la porte comme un coup de tonnerre. Les deux étrangers excitaient la plus vive curiosité dans ce jeune auditoire, le chapelain en particulier, voyait en eux les pères de quelques futurs élèves. Maître Georges lui-même ne fut pas non plus fâché de saisir ce prétexte pour fermer son livre. Le domestique de la maison, avec son habit râpé et ses boutons de cuivre qui commençaient à rougir, car il lui était bien recommandé de mettre sa livrée avant d'aller ouvrir, vint annoncer dans l'étude que deux messieurs demandaient à voir Maître Osborne. Le professeur avait eu le matin même une petite altercation avec son élève à propos des pétards que celui-ci avait fait partir pendant la classe. Mais cette visite inattendue rendit à sa figure sa sérénité et sa bonne humeur habituelle. « Je vous permets, monsieur Osborne, d'aller voir ces messieurs qui viennent d'arriver en voiture. Présentez-leur mes compliments respectueux, ainsi que ceux de Mrs. Field. » Georgie se rendit au parloir, où il trouva les deux étrangers qu'il toisa des pieds à la tête, comme à son ordinaire, sans se sentir le moins du monde intimidé. L'un était gras et portait d'épaisses moustaches. L'autre était maigre et long, et avait un habit bleu, la figure noircie par le soleil et les cheveux grisonnants. « Quelle ressemblance ! » fit le monsieur long et maigre, avec un mouvement de surprise. « Eh bien, Georges, nous reconnaissez-vous ? » La figure du petit garçon se couvrit de rougeur, comme lorsqu'il éprouvait une vive émotion. Ses yeux brillèrent d'un éclair d'intelligence. « Je ne connais pas l'autre, » dit-il alors, « mais vous, je crois que vous êtes le major Dobbin. » C'était en effet notre ancien ami. Tout ému du plaisir de se voir reconnu, il attira l'enfant vers lui. « Votre mère vous a donc quelquefois parlé de moi ? » lui demanda-t-il. « Ah, je crois bien, » répondit Georges, « et bien souvent encore. » Chapitre 25. Des rivages du Levant. C'était un véritable triomphe pour l'égoïsme et l'orgueil de vieil Osborne de voir l'infortuné Sedley, son ancien rival, son ennemi, son bienfaiteur, dans l'humiliation de la détresse et réduit à la fin à recevoir des secours pécuniaires de l'homme qu'il avait le plus outragé. L'heureux du monde, tout en accablant de sa haine l'infortuné vieillard, lui faisait de temps à autre passer quelques secours. Tout en remettant à Georges de l'argent pour sa mère, Il faisait comprendre à l'enfant, par des allusions grossières et brutales, que son grand-père maternel n'était qu'un misérable banqueroutier qu'il tenait à merci, et que John Sedley était encore en reste de reconnaissance avec l'homme auquel il devait déjà tant d'argent. George reportait à sa mère ses insultantes paroles et les redisait au pauvre infirme abandonné, auquel Amelia consacrait désormais toute sa vie, et le bambin affectait des airs protecteurs à l'égard de ce faible vieillard déçu dans toutes ses espérances. Il en est peut-être qui reprocheront à Amelia de manquer à un légitime sentiment d'amour-propre en acceptant des secours d'argent de l'ennemi de son père. Mais cette pauvre créature avait-elle jamais connu ce que c'était que l'amour-propre? Elle avait pour cela trop de simplicité dans l'âme, trop besoin d'un appui pour la soutenir. Depuis son mariage avec George Osborne, sa part en ce monde avait été la pauvreté, les humiliations, les privations quotidiennes, de dures paroles, un dévouement sans récompense. Il faut bien qu'il y ait des pauvres et des riches, comme disent ceux qui ont pour partage de boire à la coupe du bonheur. Assurément, mais au moins, sans chercher à sonder les mystères de la justice divine, rappelez-vous qu'en vous faisant naître dans la pourpre et la soie, la Providence vous a commandé la charité pour ceux qui vivent dans les haillons et la misère. Amelia recueillait donc sans se plaindre, et presque avec un sentiment de gratitude, les miettes tombées de la table de son beau-père, et qui lui servaient au moins à nourrir l'auteur de ses jours. Elle avait compris que là était son devoir, et il était dans sa nature de faire de sa vie un perpétuel sacrifice à ceux qu'elle entourait de son affection. Dans le temps où le petit Georgie était encore auprès d'elle, que de longues nuits n'avait-elle pas passé à travailler pour lui sans qu'il s'en doutât, sans qu'il l'en ait seulement jamais remercié? Que de rebuts, que de dégoûts, que de privations, que de misères n'avait-elle pas enduré pour assurer un peu plus le bien-être à son père et à sa mère? Au milieu de ces sacrifices, de ces dévouements dont sa solitude avait seule le secret, elle n'avait pour son amour-propre pas plus d'égard que le monde. C'est que l'humble créature pensait, dans son cœur, que sa position dans sa vie était encore au-dessus de ses mérites à elle, pauvre roseau pliant et méprisé. La vie d'Amelia, qui s'était annoncée d'abord sous de favorables augures, se terminait, on le voit, d'une bien triste manière, dans la dépendance et l'humiliation. Les visites du petit Georges faisaient du moins pénétrer dans sa prison comme des lueurs d'espérance. Russell Square était pour elle la terre promise. Toutes les fois qu'elle pouvait s'échapper, c'était là le but de ses promenades. Mais il fallait rentrer le soir dans son cachot pour y remplir ses pénibles devoirs, pour veiller sur des malades qui ne lui avaient aucune reconnaissance de ses soins, et là il lui fallait subir les lamentations et les exigences despotiques de vieillards aigris par les malheurs et les années. La mère d'Amelia fut enterrée dans le cimetière de Brompton. Le convoi eut lieu par un jour de pluie et de brouillard qui rappela à Amelia celui de son mariage. Son petit garçon, en magnifiques habits de deuil, était assis à côté d'elle. En cette triste circonstance, ses pensées l'entraînèrent bien loin de la cérémonie qui s'accomplissait alors sous ses yeux. Tout en serrant la main de George dans la sienne, elle souhaitait presque d'être à la place de... Mais non, comme à son ordinaire, elle se sentit toute honteuse de son égoïsme et demanda à Dieu de lui donner des forces pour accomplir son devoir jusqu'au bout. Elle résolut de réunir toutes ses forces, toutes ses pensées vers un seul but, qui était de répandre encore le bonheur et la joie sur les dernières années de son père. Elle se dévoua à son service et se mit à travailler, à coudre auprès de lui, à chanter, à faire sa partie de tric-trac pour le distraire, à lire le journal, à préparer des plats de son goût, à le mener à la promenade de Kensington Gardens. Elle écoutait ses histoires avec un sourire de complaisance, un plaisir simulé. Ou bien, assise à ses côtés, elle se laissait aller à ses pensées, à ses souvenirs, tandis que le pauvre infirme se réchauffait au soleil et se livrait à ses plaintes et à ses récriminations. Triste existence pour la pauvre veuve. Les enfants qui couraient et jouaient dans les allées du jardin lui rappelaient Georges qu'on lui avait enlevé. L'autre Georges aussi lui avait été enlevé. Dans ces deux occasions, son amour égoïste et coupable avait reçu un rude châtiment. Elle faisait tous ses efforts pour se persuader qu'elle subissait une punition méritée, qu'elle était une malheureuse pécheresse, et ainsi s'expliquait pour elle l'isolement où elle se trouvait. Après la mort de sa femme, le vieux Sedley s'attacha de plus en plus à sa fille, et en cela, du moins, Amelia trouva un adoucissement dans ce qu'il y avait de pénible à accomplir ses devoirs. Mais depuis assez longtemps, ces deux personnages sont plongés dans une triste condition. Les meilleurs jours vont luire enfin pour eux, jours de bonheur à la guise du monde. Le lecteur aura sans doute déjà deviné quel était le gros et gras personnage qui était allé trouver Georgie à son école en compagnie de notre vieil ami le major Dobbin. C'était une de nos vieilles connaissances dont le retour en Angleterre allait ramener le bien-être dans l'honnête famille dont nous avons suivi les vicissitudes. Le major Dobbin avait facilement obtenu un congé de son brave commandant et de la sorte avait pu immédiatement se rendre à Madras d'où il devait s'embarquer pour l'Europe, où l'appelaient les affaires les plus urgentes. Il voyagea jour et nuit jusqu'à sa destination. Aussi, il arriva à Madras en proie à une fièvre dévorante. Les domestiques qui l'accompagnaient le transportèrent dans un état fort alarmant chez un de ses amis, dans la maison duquel il devait demeurer jusqu'au moment de son embarquement pour l'Europe. Et pendant plusieurs jours, on eut tout lieu de croire qu'il n'irait pas plus loin que le cimetière de Madras, où il aurait sa place au milieu des tombeaux de tant de braves officiers morts loin de leur patrie. Tandis que le pauvre malheureux était ainsi consumé par le feu de la fièvre, ceux qui veillaient à son chevet purent distinguer, à travers les paroles confuses qu'il prononçait dans son délire, le nom d'Amelia. À ces transports d'exaltation fébrile succédait, dans les moments lucides, une prostration complète en pensant qu'il ne la reverrait plus. Croyant sa dernière heure arrivée, il faisait ses préparatifs pour passer dans l'autre monde, mettait ses affaires en règle et disposait de sa fortune en faveur de ceux qu'il désirait le plus en voir profiter. L'ami dans la maison duquel il logeait servit de témoin à son testament. Il demandait à être enseveli avec la petite chaîne de cheveux qu'il portait à son cou. Nous devons dire, pour ne point trahir la vérité, qu'il se l'était procuré par l'entremise de la femme de chambre d'Amelia lorsqu'à Bruxelles il avait fallu couper les cheveux de la jeune veuve pendant la fièvre qu'elle avait eue à la suite de la mort de son mari. Il parvint enfin à se rétablir, en dépit des saignées et des purgations auxquelles il n'échappa que grâce à la force de sa constitution. Il était presque réduit à l'état de squelette lorsqu'il s'embarqua enfin sur le Ramchunder de la Compagnie des Indes orientales venant de Calcutta et relâchant à Madras. Le pauvre Dobbin était si faible, si épuisé, que son ami, qui l'avait soigné pendant le cours de sa maladie, augurait fort mal des résultats de ce voyage pour l'honnête major, et lui prédisait que quelque beau matin, on serait obligé de le faire passer, proprement empaqueté dans son hamac, par-dessus le bord du navire, emportant au fond de la mer la relique qu'il avait toujours sur le cœur. Mais malgré le prophète et ses prophéties, l'air bienfaisant de la mer, ou peut-être mieux encore, l'espérance qui renaissait plus vivace au cœur du convalescent, à mesure que le navire traçait son sillage d'écume sur les flots, rendit la vie et la santé à notre ami, et il était parfaitement guéri avant que l'on touchât le cap. « Allons, disait-il en riant, Kirk n'aura pas encore cette fois ses épaulettes de major, lui qui pensait les trouver toutes prêtes à son arrivée à Londres avec le régiment. » Il faut qu'on sache que dans le temps que le major était malade à Madras de la précipitation de son voyage, son régiment avait reçu son ordre de retour et que le major aurait pu revenir avec ses camarades s'il avait eu la patience de les attendre dans cette ville. Peut-être ne voulait-il pas se livrer aux tentatives de Glorvina dans cet état de faiblesse et de délabrement. « Je voudrais bien savoir ce que Miss O'Dowd aurait fait de moi, disait-il en riant à son compagnon de traversée, si elle avait été à notre bord. Après m'avoir vu disparaître, elle se serait rejetée sur vous, et, soyez-en sûr, mon vieux Joss, elle vous aurait traîné en triomphe à sa remorque jusqu'à Southampton. » Le compagnon de route de Dobbin, à bord du Ramchunder, n'était autre en effet que notre gros et gras ami qui rentrait en Angleterre après 10 années passées au Bengale. Un régime de dîner, de pâtisserie, de grog, de bordeaux, enfin l'eau-de-vie et le rhum avaient fini par rendre fort nécessaire à Waterloo Sedley ce voyage en Europe. Il avait fait son temps de service dans la Compagnie des Indes, où il avait touché d'assez beaux émoluments pour mettre de côté une somme des plus rondes. Rien ne l'empêchait plus désormais de rentrer dans sa patrie pour y jouir de la pension à laquelle il avait droit, si mieux il n'aimait s'engager de nouveau et remplir le rang élevé auquel le désignaient son ancienneté et ses immenses talents. Il était peut-être un peu moins gros que lorsque nous l'avons connu autrefois, mais sa démarche avait quelque chose de plus solennel et de plus majestueux. Il avait laissé repousser les moustaches avec lesquelles il s'était si bien comporté à Waterloo. Il se pavanait sur le pont, ombragé de son magnifique chapeau de velours à franges d'or. Il portait à profusion sur sa personne des bijoux et des épingles en diamants. Il se faisait servir à déjeuner dans sa cabine et mettait autant de recherches dans sa toilette pour paraître sur le gaillard d'arrière que s'il s'était agi d'aller dans les promenades les plus en renom de Calcutta. Il emmenait avec lui un domestique indigène qui le servait et bourrait sa pipe. Cet enfant de l'Orient menait une existence peu fortunée sous le despotisme de Jos Sedley. Jos était aussi vain de sa personne qu'une petite maîtresse de la sienne, et mettait autant de temps à sa toilette que la beauté la plus fardée. Les jeunes passagers, pour tromper la longueur de la traversée, faisaient toujours cercle autour de Sedley, le priant de leur raconter ses merveilleux exploits contre les tigres et Napoléon. Il fut sublime à la visite qu'il rendit à la tombe de l'empereur à Longwood, lorsqu'au milieu de tous les passagers et de tous les jeunes officiers du navire, à l'exception du major Dobbin qui était resté à bord, il leur raconta toute la bataille de Waterloo et leur démontra que, sans lui, Jos Sedley, Napoléon n'aurait jamais perdu la bataille, ni par suite été exilé à Sainte-Hélène. Lorsque le navire eut remis à la voile de Sainte-Hélène, Jos s'empressa de distribuer, avec une générosité vraiment royale, ses provisions de Bordeaux, de conserve, d'eau gazeuse qu'il avait prise pour charmer les ennuis de la route. Comme il n'y avait point de dames à bord, et que le major avait cédé le pas à l'employé civil, celui-ci avait à table la place d'honneur. Aussi le capitaine et les officiers du Ramchander l'entouraient-ils de tous les égards auxquels son rang lui donnait droit. Il ne parut point toutefois pendant 2 jours de tourmente où la mer venait déferler sur le pont, mais il resta dans sa cabine à lire la blanchisseuse de Finchley Common, laissée à bord par l'honorable Lady Emily Cornemuse, femme du révérend Silas Cornemuse, en se rendant à leur évêché du Cap. Pour lecture ordinaire, il portait avec lui un ballot de romans et de pièces de théâtre qu'il prêtait aux autres passagers. Enfin, son affabilité et ses prévenances l'avaient mis fort bien avec tout le monde. Que de fois, par une belle et chaude soirée, tandis que le vaisseau traçait sa ligne d'écume sur la mer mugissante, que la lune et les étoiles brillaient à la voûte céleste, que les tintements inégaux de la cloche de quart troublaient seuls le silence de la nuit, Sedley et le major, assis sur la dunette, et fumant l'un son cigare, l'autre son hookah bourré par son domestique indien, avaient parlé du sol natal. Dans ces entretiens intimes, le major Dobbin ne manquait jamais de faire tomber, avec une adresse merveilleuse, la conversation sur Amelia et son fils. Tandis que Jos parlait, sans beaucoup de ménagement, des malheurs de son père et du sans-gêne du vieillard à le mettre à contribution. Le major s'efforçait alors de le ramener à de meilleurs sentiments, en lui faisant sentir quels égards étaient dus aux malheurs et aux années. Sans doute Joseph ne pouvait partager le genre de vie des deux vieillards et s'arranger de leurs habitudes et de leurs manies après avoir vécu dans une société toute différente, à quoi Jos donnait un signe de tête approbatif. Le major reprenait alors Joseph en sous-œuvre, lui faisait sentir quel avantage pour lui d'avoir à Londres un train de maison complet et de ne plus se contenter d'un appartement de garçon. Sa sœur Amelia était la personne qu'il lui fallait pour diriger son intérieur. C'était le bon goût, la bonté personnifiée, la perfection sous tous les rapports. Il lui rappelait avec quel succès Mrs. George Osborne avait autrefois paru à Bruxelles et à Londres, où elle était admirée et choyée dans la meilleure société. Puis il lui insinuait qu'il était de son devoir d'envoyer Georgie à une des meilleures écoles et d'en faire un homme, car sa mère et ses grands-parents n'étaient bons que pour le gâter. En un mot, l'adroit major avait fini par tirer de Joseph la promesse qu'il se ferait le protecteur d'Amelia et de son fils. Il ignorait les événements survenus dans la famille Sedley. la mort de Mrs. Sedley, la séparation d'Amelia et de son fils, la grande fortune de ce dernier. Toujours est-il que tous les jours, et à toute heure du jour, le brave garçon, dans le cœur duquel l'amour avait fait de si profonds ravages, ne pensait qu'à Mrs. Osborne et aux moyens de lui venir en aide. Il avait pour Joss Sedley des compliments et des flatteries qui ne tarissaient point. Il ressentait pour lui une tendresse dont celui-ci ne se rendait pas très bien compte. Mais nos lecteurs qui ont des sœurs ou des filles doivent avoir remarqué combien sont aimables et empressés auprès d'eux les hommes qui font la cour aux femmes de leur famille, et peut-être le major était-il digne de prendre rang parmi ces adeptes de l'hypocrisie. Le fait est que le major Dobbin, en s'embarquant à bord du Ramchunder, se trouvait dans un état désespéré, et qu'il ne commença à se remettre et ne fit bonne figure à son vieil ami M. Sedley qu'après une conversation qu'ils eurent ensemble sur le pont, où l'on avait porté le major presque défaillant. Dobbin avait alors dit à Joseph qu'il ne lui restait plus qu'à se soumettre à sa destinée, qu'il laissait quelque chose à son filleul dans son testament, et qu'il espérait que Mrs. Osborne lui garderait un bon souvenir, qu'enfin, il désirait qu'elle fût heureuse avec le nouvel époux qu'elle allait prendre. « Un mariage ?» avait dit Joseph. « Mais il n'est point question de cela. Elle ne m'a jamais parlé de mariage dans ses lettres. » Seulement, elle avait annoncé de son côté, à son frère, que le major Dobbin allait se marier, et elle faisait des vœux bien sincères pour son bonheur. Mais quelles étaient enfin la date de ces lettres? Sedley les rechercha. Elles étaient de 2 mois postérieures à celles qu'avait reçues le major. À partir de ce jour, le chirurgien du navire n'eut qu'à s'applaudir du nouveau régime qu'il avait prescrit au malade, que le médecin de Madras lui avait remis dans un état à peu près désespéré. En effet, depuis que le major avait changé de potion, un mieux sensible s'était manifesté. Voilà de quelle manière le capitaine Kirk manqua ses épaulettes de major. La gaieté et la force revinrent au major Dobbin, toujours en augmentant. Ses compagnons de traversée ne pouvaient s'expliquer une métamorphose si subite. Dobbin plaisantait maintenant avec les officiers, tirait le bâton avec les matelots, courait sur les cordages comme le plus agile des mousses, et chantait le soir des chansonnettes au grand divertissement de tout l'équipage assemblé pour prendre le grog. Enfin, il était devenu si aimable, si gai, si enjoué, que le capitaine, qui jusqu'alors l'avait regardé comme un pauvre sire et un être presque nul, avait fini par s'avouer à lui-même que le major, malgré sa réserve, était un officier fort instruit et fort capable. « Il n'a pas de manière très distinguée, disait le capitaine à son second, et peut-être représenterait-il assez mal au palais du gouverneur, où sa seigneurie et Lady Williams m'ont honoré de leurs attentions particulières, et me prenant la main devant toute la compagnie, m'ont invité à prendre un verre de bière avec eux devant le commandant en chef. Mais s'il ne possède pas d'excellentes manières, il y a au moins de ça dans cet homme-là. » Le capitaine du Ramchunder prouvait par là qu'il était aussi capable de sonder les mystères de la nature humaine que de commander une manœuvre. À 10 jours environ des côtes de l'Angleterre, le bâtiment fut arrêté par un calme plat. Dobbin se livra alors à des accès d'impatience et de mauvaise humeur qui surprirent tous ses camarades, charmés jusque-là de sa bonhomie et de son entrain. Mais lorsque la brise vint de nouveau, on le vit se livrer à tous les transports d'une joie enfantine. Ah, son cœur battit bien fort lorsque le pilote du port monta à bord du navire, lorsqu'il aperçut les 2 tours amies du clocher de Southampton.